Géopolitique, Éric Bataillon.
Bonjour. L'évolution des villes dans le monde se caractérise par leur gigantisme ainsi que par une parcellisation des surfaces construites. Ici, des grands ensembles sociaux, là, de vastes centres commerciaux. Ici encore, des résidences fermées et sécurisées, là, des gratte-ciels de plus en plus hauts. Pourtant, loin de tisser du lien social et favoriser les échanges, ce type de développement urbain ne génère, semble-t-il, que de l'assujettissement, de l'enfermement et de la solitude. Il serait le fruit non pas d'exigences citoyenne, mais de la spéculation financière et d'un certain arbitraire technocratique. Or, ce type de développement urbain tend à se généraliser, quel que soit le lieu sur la planète, ce que déplore notre invité qui préfère placer ses espérances dans des villes à taille humaine, donc moyenne et horizontale. Bonjour Thierry Pacaud.
Bonjour.
Philosophe de l'urbain, auteur de très nombreux ouvrages sur l'urbanisation, dont Désastre urbain, les villes se meurent aussi, c'était en 2015, Paysage en 2016, ainsi qu'une réédition 10 ans après de Terre urbaine. Alors pour démarrer cette émission, nous pourrions peut-être définir ce qu'est une ville, en quoi une ville est-elle vraiment une ville ?
Alors une ville, ça a d'abord été une définition statistique de la fin du 19e siècle. Pour le cas français, je précise tout de suite, une ville était un regroupement de au moins 2000 habitants avec des maisons qui n'étaient pas plus éloignées les unes des autres de 200 mètres. Donc c'était quelque chose de compact et de 2000 habitants. Évidemment, aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, 2000 habitants, quand on évoque Tokyo qu'on a 30 millions et qu'on appelle aussi ville, ça pose une véritable question. La notion de ville pour l'Union européenne, c'est 10 000 habitants. La notion de ville pour la Chine, c'est 100 000 habitants, etc. Donc, c'est pas une notion facile statistiquement à aborder. C'est pour ça que moi, je lui donne une définition plus philosophique. Je considère qu'une ville est l'heureuse réunion ou combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Et si une de ces qualités vient à manquer, eh bien l'esprit de la ville disparaît.
Alors l'urbanité par exemple, qu'est-ce que c'est précisément ?
Alors l'urbanité, c'est Cicéron qui invente ce terme, urbanitas, qui est la maîtrise de la langue. Pour le dire autrement, c'est la capacité que quelqu'un a d'être urbain envers un autre, c'est-à-dire accueillant, même s'il bafouille la langue, même s'il a son patois, même s'il ne sait pas se débrouiller. Donc plus généralement, l'urbanité c'est une qualité d'hospitalité.
L'altérité, alors ?
Alors, l'altérité, c'est le rapport à l'autre, à soi-même, insaisissable, inconnaissable. Par exemple, on pourrait imaginer que jamais un chrétien ne saurait ce qu'est la prière pour un musulman et réciproquement. On ne sait pas ce que c'est que le plaisir pour une femme et elle ne sait pas ce que c'est le plaisir pour un homme, par exemple, etc. Et puis, évidemment, l'altérité suprême, c'est notre rapport au vivant, c'est-à-dire à l'arbre, à la forêt, à la rivière, au poisson, à l'oiseau, etc., qui appartiennent aussi au contexte urbain. Donc, il faudrait penser, quand on imagine l'organisation territoriale, à s'adresser et à donner la parole, je mets ça avec des guillemets, au monde vivant, ce qui n'est pas facile.
Et le troisième, le triptyque donc, puisque vous avez cité...
Alors la diversité, pour moi le plus important. Une ville doit être et forcément composite. Donc c'est une diversité de toute nature, diversité des origines sociales, des origines géographiques, langagières, vestimentaires, etc. Rien n'est plus, enfin à mes yeux, n'est plus stimulant et beau d'une certaine façon que cette diversité que j'observe simplement en tant que spectateur de la rue. Voilà des coiffures magnifiques, des costumes vestimentaires différents, tout ça m'enchante. Et donc la diversité générationnelle, sexuelle, sociale est indispensable pour faire une ville. Je donne l'exemple que vous avez mentionné dans votre introduction. Dans les gated communities, les enclaves sécurisées, on a au contraire une homogénéité socio-économique et même culturelle. Et donc, ça fait pas ville, parce qu'il n'y a pas assez de diversité.
Mais alors, tout cela, évidemment, ce sont des termes philosophiques, vous l'avez dit, mais concrètement, les villes, ça se construit. Est-ce que l'on construit les villes de la même façon partout sur la planète ?
Alors, historiquement, non. Mais il y a des tendances lourdes qui aujourd'hui concernent le monde entier, car vous le savez très bien, c'est même l'objet de votre émission régulièrement, c'est de montrer qu'on est dans un système mondialisé, globalisé, et que ce qui concerne un paysan malien a des répercussions pour un habitant du Tibet ou un habitant de Manhattan, ce qu'on n'a pas toujours en tête évidemment. Donc lorsque j'annonce ce désastre urbain, c'est que je crains la disparition des villes, je crains et j'observe une urbanisation planétaire sans ville. Alors, c'est d'autres formes qu'il faut examiner, qu'il faut analyser, qui sont pas forcément inhumaines et insupportables, mais on n'est plus dans cette configuration-là.
Par exemple, quand vous citiez Tokyo, 30 millions d'habitants, ce n'est plus une ville pour vous.
Alors, c'est plus une ville pour moi, mais si j'en crois les habitants, et en particulier les romanciers ou les cinéastes, qui sont des très bons informateurs sur les phénomènes urbains, eh bien, on s'aperçoit que, dans le cas de Tokyo, il y a, à l'intérieur de cette énorme mégalopole, des structures villageoises ou communautaires qui font ville.
Mais alors, dans votre introduction à Terre urbaine, vous parlez de la configuration en fait des villes qui a évolué et par exemple l'importance du capitalisme lourd dans la fabrication des villes, notamment au 19e, 20e siècle. Expliquez-nous en quoi un capitalisme particulier peut façonner des villes d'une façon particulière.
Alors, les villes, on considère que les villes sont nées il y a 6 à 7 000 ans et... Pour qu'il y ait des villes, il fallait qu'il y ait un surplus agricole suffisant pour entretenir des catégories sociales qui n'existaient pas dans le monde rural et agricole de cette époque-là. Et ces trois catégories sociales étaient les guerriers, les prêtres et les marchands. Et ça a donné naissance à des villes composites, effectivement, d'une très grande variété de statuts, de positionnement social, de richesse, etc., ou de pauvreté. Avec le capitalisme, c'est-à-dire avec l'industrialisation, avec surtout ce que moi j'appelle dorénavant le productivisme, qui est plus parlant que l'industrialisation, à la fin du XVIIIe siècle, d'abord dans le monde rural. On oublie souvent que le productivisme commence à travailler... dans tous les sens du terme, à labourer les terres, et ensuite seulement va se préoccuper des manufactures, puis beaucoup plus tard des services. Eh bien, ça va produire des villes qui sont des villes axées exclusivement par rapport à la fonctionnalité du capitalisme. Donc c'est des villes pour des individus, entre guillemets, solvables, bien portants et actifs.
Par exemple, est-ce que Clermont-Ferrand...
Alors, par exemple, Clermont-Ferrand,
avec Michelin.
Michelin, Sochaux avec Peugeot, etc. Le Creusot avec Schneider, tout ça, ce sont des villes qui sont destinées exclusivement à une activité industrielle. L'exemple le plus typique aujourd'hui dans le monde, c'est Détroit, puisque en 1950, la capitale de l'industrie automobile du monde avait 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 600 000. Donc, il y a une perte de population.
Et ils sont en faillite.
Et en même temps, la municipalité est en faillite et une perte de la diversité. Parce qu'évidemment, les classes aisées, les ingénieurs ont réussi à se recaser. Malheureusement, les OS ont perdu leur boulot. On a fermé les usines et ils sont restés scotchés à ce territoire qui est devenu un territoire sinistré.
Mais alors, à ce capitalisme lourd, vous opposez désormais un capitalisme liquide.
Alors
qu'est-ce
reprends...
que c'est l'ubérisation ?
Non, pas tout à fait. Oui, un peu, mais oui, bien sûr, mais pas seulement. C'est plus profond, j'allais dire, que ça. Je reprends l'expression au sociologue polonais, mais qui réside en Angleterre, qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui a inventé cette notion que je trouve très juste de liquide. L'amour liquide, la société liquide, etc. Alors, qu'est-ce qui est liquide? Ben, c'est justement ce qui n'est pas solide. C'est-à-dire quelque chose qui est fluide, qui circule, qui s'adapte, qui se transforme. On pourrait le donner un mot d'économiste. C'est tout ce qui est flexible. Et donc, au capitalisme solide, enraciné localement, comme vous l'avez très justement dit, Michelin à Clermont-Ferrand, on a dorénavant un capitalisme liquide qui peut s'adapter n'importe où. Ce qui fait que son rapport au territoire a changé. Et le capitalisme actuel financiarisé et globalisé, à mon avis, précarise le territoire comme il a précarisé l'emploi. Et l'ubérisation, c'est une précarisation de l'emploi, d'une certaine manière. Eh bien, le territoire aujourd'hui est indifférent à ces sociétés capitalistiques. Ils s'installent là, ça marche plus, ils vont ailleurs. Ce qui fait que leur conception de la ville, est un plateau technique. Ou dans lequel on vient brancher une gare de TGV, un aéroport, un centre commercial, un hôtel 4 étoiles, etc. Une université avec un laboratoire, etc. Et puis, ça marche plus, hop, on débranche, on va ailleurs. Et ça, c'est cette espèce de rupture avec ce que Bachelard appelle la topophilie, c'est-à-dire l'amitié du lieu, est décisif parce que ça casse complètement quelque chose. Ça casse une cohésion sociale et une cohérence territoriale. Un ingénieur de chez Michelin, au 19e siècle, il s'enracinait. Il épousait la fille du patron, s'il réussissait, bon, ou une autre pépée du coin, vraiment. Mais il s'installait là, il devenait maire d'un petit village, il était au Lions Club local, il avait des activités philanthropiques, etc. Bon, aujourd'hui, un ingénieur arrive là, immédiatement, dans sa tête, il a son plan de carrière, il dit, dans 2 ans, je serai à Dubaï, dans 6 ans, je serai à Shanghai. Et donc, il n'a pas le temps affectivement de prendre la mesure d'un lieu.
Vous écoutez RFI, l'émission géopolitique consacrée au développement urbain dans le monde. Thierry Pacaud, alors face à l'expansion urbaine que l'on constate un peu partout à travers le monde et aussi à la réduction des terres agricoles, est-ce qu'il y a une bonne façon d'occuper les sols aujourd'hui ?
Alors le sol évidemment est fondamental, bien sûr, c'est une banalité de le dire. N'oublions jamais qu'en hébreu, le sol, l'argile, c'est Adama qui a donné Adam, donc notre premier homme, dont on est plus ou moins les enfants. Non, je dis ça parce que la mythologie est très importante. Et donc, ce rapport aux éléments, les quatre éléments en Occident ou les cinq en Orient, comprennent toujours l'élément terre. Et ce mot terre est essentiel parce que c'est ce qui nourrit les hommes, bien évidemment. Et le fait qu'on confisque des terres, qu'on imperméabilise des sols en les bétonnant pour faire des autoroutes, pour faire des pistes d'atterrissage, d'avions, pour des centres commerciaux, etc., est pour moi une véritable catastrophe. On considère, pour l'instant, que l'ensemble des mégalopoles du monde occuperait, si on les assemblait au même endroit, occuperait 2% de la surface des terres de la planète. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place à côté. Mais la place d'à côté, elle n'est pas forcément hospitalière et accueillante, parce que on a détruit, avec le productivisme, on a détruit considérablement la qualité organique des sols. Et aujourd'hui, des sols qui ont été usés, qui ont été condamnés, j'allais dire, à produire le maximum de maïs, le maximum de colza, le maximum de blé, etc., à un moment donné, sont des terres épuisées. Et si on veut, premièrement, réhabiliter ces terres, il faut leur donner du temps de se refaire une santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut, à mon avis, empêcher cette imperméabilisation du sol généralisée, parce que il suffit de regarder nos villes, hein, elles sont minérales, fondamentalement. Et de temps en temps, on est tout heureux, et comme on n'arrive pas à trouver d'espace vert à la surface du sol, on est tout heureux de dire, les élus sont tout heureux de dire, ah oui, on va faire un jardin sur le toit. Oui, d'accord, peut-être, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que la ville soit cette interaction entre le vivant et le minéral, c'est-à-dire que la nature retrouve sa juste place dans la ville. Si vous regardez les noms des rues dans les villes occidentales, en particulier ce qu'on appelle la toponymie, on voit bien qu'il y a encore des références, même à Paris, le Pré-au-Clair, le rue des Vignobles, etc. Donc on voit bien que la ville n'était pas coupée de la réalité naturelle, j'allais dire, saisonnière de la production de biens alimentaires.
Mais donc, il faut créer des espaces naturels dans les villes, il faut des jardins.
Et voilà, moi, je suis catastrophé sur le cas de Paris, par exemple, mais je pourrais le dire également sur le Caire, sur la Gauche, etc., qu'on bâtit sans cesse, alors qu'on devrait d'abord planter. C'est-à-dire que je pense qu'il nous faut des forêts urbaines. Et alors, c'est un choix difficile pour un élu, bien sûr. Et puis, il faudrait que l'élu, comme le dit très justement le paysagiste que j'admire, qui est Gilles Clément, il faudrait que l'élu soit capable d'aller inaugurer des graines. Non, il veut pas. Il a un mandat de 5 ans ou de 6 ans. Il veut inaugurer des arbres. Il veut inaugurer un jardin entièrement constitué. Donc, ce qui fait qu'on achète des plantes adultes, alors ça coûte très cher, c'est énergivore, ça vient du bout du monde, et ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut redonner à tout territoire ses temporalités. Et donc, c'est ce jeu fantastique entre la rythme-analyse et la topo-analyse qu'il faudrait essayer d'effectuer.
Mais alors, comment qualifieriez-vous ces constructions gigantesques qui se multiplient finalement, par exemple, à Amman, la capitale jordanienne, qui vient d'avoir sa tour de 188 mètres qui sera utilisée par un hôtel. Alors, l'architecte écrit, je vous le cite, que cette tour est un véritable repère avec sa silhouette tantôt au galbe élancé, tantôt profilée en creux, des focales qui mettent en relief l'ancrage de cet immeuble avec la ville basse. Or, on a l'impression que c'est juste une implantation totalement immatérielle au milieu d'une ville qui ne ressemble pas à ça.
Mais c'est ça, le gratte-ciel, il soliloque, il est tout seul, il est isolé, il dialogue avec rien, il est une impasse en hauteur. La ville est pleine de rues, c'est ça qui est fantastique, et quand on s'y promène, on aime bien s'y perdre, pourquoi pas. Dans une impasse en hauteur, c'est une gated community momentané, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il suffit de la fermer en bas, on met des vigiles qui contrôlent, et plus personne ne peut accéder à cette ville verticale. Pour moi, la verticalité de ces villes est absurde. Elle est absurde d'abord d'un point de vue énergivore. La fabrication des matériaux nécessaires à l'édification d'une tour, c'est-à-dire des vitrages ultra sophistiqués et des aciers spéciaux, est très coûteux en énergie, avant même que le bâtiment fonctionne. Ensuite, quand il fonctionne avec la domotique, avec le numérique, etc., c'est très très coûteux également. Alors, on dit, parce que là aussi, il y a plusieurs générations de gratte-ciel, la première génération de gratte-ciel, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis, c'est des gratte-ciel à 1500 kWh par mètre carré par an de consommation d'énergie électrique. Le Grenelle de l'environnement réclamait 50. Vous voyez, donc 2500, on en est loin. Ce qui fait qu'en moyenne, un gratte-ciel assez performant, au dire de leur promoteur, avec le vocabulaire pseudo-lyrique que vous venez d'évoquer de cet architecte, qui veut faire passer la pilule, c'est de dire, c'est 700, 50, 800. Donc on est loin des 50. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. À partir du moment où je parle d'urbanité, j'observe que ce bâtiment en hauteur n'est pas urbain. Il ne permet pas justement cette diversité. Parce que faut pas se leurrer, quand on dit on fait un programme avec des bureaux sociaux au premier étage, forcément c'est les moins lumineux. Hein. Ensuite, l'hôtel de luxe au dernier étage avec un restaurant à vue panoramique et puis entre-temps des sièges sociaux d'entreprise, il est bien évident que les ascenseurs seront discriminants. Parce que le client de l'hôtel de luxe, il a aucune envie de prendre l'ascenseur avec la petite vieille qui va au service social du premier étage. Donc il aura son propre ascenseur ultra rapide pour aller immédiatement à sa destination. Donc c'est une illusion de faire croire qu'on peut faire tenir la diversité d'une ville dans un seul et même bâtiment. Et du reste, j'en veux pour preuve que le cinéma, encore une fois, ou la science-fiction, ou le roman, nous montre toujours des tours infernales.
Alors le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de territoires, de villes, comme Singapour par exemple, ou Tokyo, qui n'ont peut-être pas d'autre choix que de construire en hauteur.
Bon, quand on regarde attentivement les chiffres, que ce soit Londres, Tokyo, Chicago, etc., la majorité de la population vit dans des maisons individuelles. 60% pour Chicago, 80% pour Londres. Donc on a plutôt l'image du bouquet de gratte-ciel, mais ce bouquet de gratte-ciel, c'est quelque chose d'abord qui a une espérance de vie d'une vingtaine d'années, donc il faut les renouveler, il faut les réhabiliter. Tout ça est excessivement coûteux parce que on calcule toujours le coût de fabrication mais jamais le coût de démontage d'un gratte-ciel. C'est-à-dire que c'est pas un bâtiment réversible. Alors ça, c'est terrible parce que pour qu'une ville soit composite et vive sans cesse et se réadapte, manifeste une résilience ici, un réaménagement ailleurs, il faut cette souplesse. Et là, c'est pas possible. On a un gratte-ciel et on l'a pour un paquet d'années. Alors c'est pour ça qu'aussi en France, par exemple, où on a ce qu'on appelle le PPP, c'est le partenariat privé-public, toujours à l'avantage du privé, évidemment, c'est une insulte à la citoyenneté.
Alors si l'on ne fait pas de gratte-ciel, d'immeuble de grande hauteur, comme l'on dit, on fait quoi ? Est-ce que l'on fait du pavillonnaire, par exemple, avec un secteur commercial à côté, etc.
Non, alors ça, surtout pas le zonage de ce...
Ça, civil. Vous êtes absolument contre.
Oui,
c'est une aberration.
Le Corbusier est absurde, évidemment. Non, il faut surtout pas faire un quartier d'affaires, un quartier sportif, un quartier... Non, il faut là aussi que ce soit composite.
Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ne pas faire comme ça ?
Pourquoi ? Parce que ça veut dire que sans cesse vous êtes dans les mobilités. Parce que vous habitez dans le quartier résidentiel, mais vous allez faire du sport, ce qui est tout à fait agréable. Vous allez ensuite acheter vos affaires pour vous nourrir. Vous allez ensuite à votre boulot. Et si à chaque fois vous devez aller dans des quartiers différents, alors vous ne cessez de circuler. Ce qui est la tendance actuelle, évidemment. Hein, c'est très curieux de voir comment le mot mobilité, qui n'existait pas pratiquement dans les discours sur la ville il y a encore 15-20 ans, aujourd'hui est le mot clé. Tout doit être ultra modal et multimodal. Il y a des tas de gens qui comprennent pas ce que veut dire modal. Du raisin, c'est des modalités de mode de transformation, de circulation, pardon. Donc ça veut dire, je prends le train, je prends le RER, donc tout est modal. Et en même temps, je suis toujours dans un temps entre deux, qui est le temps de transport. Alors, moi, je crois que ce qui est agréable pour le citadin qui est un terrien, c'est d'aller de chez lui à son travail, de son travail à ses lieux de plaisir, de distraction, de rencontre, de sociabilité, etc., à pied ou à bicyclette. S'il faut prendre sa bagnole, s'il faut prendre 10 minutes pour se garer, si... Alors, maintenant, évidemment, j'ai bien conscience, et surtout dans le cas africain, en ce moment, qui est le nouveau continent qui s'urbanise, on a un urbanisme horizontal qui pose d'énormes problèmes. Par exemple, si on est bidonvillois, c'est quand même la condition majoritaire de l'urbanisation dans le continent africain aujourd'hui, et qu'on est éloigné d'un centre quelconque où on arrivait quand même à trouver des petits boulots, eh bien on est pénalisé. On est pénalisé. Donc la question des transports, la question de l'accessibilité des différents endroits de la ville est évidemment une question politique fondamentale. Regardez le succès du métro câble à Medellin. Ça a été honoré par toute la presse internationale, à juste titre, parce que ça mettait en contact, enfin, des lieux qui s'opposaient ou même qui s'ignoraient.
Vous écoutez Géopolitique, consacré au développement des villes dans le monde. On marque une pause, le temps de prendre connaissance des informations avec la rédaction.
Géopolitique, Éric Bataillon.
Merci pour ces informations et retour à notre émission géopolitique consacrée à l'évolution des villes dans le monde avec notre invité Thierry Paco, philosophe de l'urbain. Alors Thierry Paco, bien que certains, comme le président américain élu Donald Trump, le contestent, le climat serait malgré tout en train de changer. Dès lors, doit-on avoir une approche différente de la façon de faire des villes ?
Oui, évidemment. Et c'est un sujet majeur et très récent. C'est-à-dire que quand vous regardez les études sur les villes, les monographies sur les grandes mégalopoles, pendant très longtemps, la question environnementale n'est jamais mentionnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'histoire environnementale des villes. On est un peu tout nu. Donc il nous faut apprendre aussi tout ça maintenant, parce qu'on était dans cette illusion du progrès, que plus une ville grossissait, mieux c'était. On avait des villes avec des représentations, avec des cheminées qui dégageaient des fumées extraordinaires. On disait, c'est super, là, au moins, ils ont du fric, ça marche, etc. Bon, maintenant, on s'aperçoit que c'est pas si simple, que les transports individuels ou collectifs sont producteurs de gaz à effet de serre, que le chauffage des immeubles participe grandement aussi au réchauffement climatique.
Notamment les feux de cheminée.
Notamment. Donc, du coup, on voit bien que la dimension environnementale est fondamentale. Ça commence par le choix des matériaux. Ça se poursuit par l'organisation territoriale, c'est-à-dire l'agencement des maisons, éviter évidemment un éparpillement. Ça, c'est une absurdité, bien sûr. Donc, il faut inventer de nouvelles formes d'architecture où on peut imbriquer des maisons individuelles sans forcément faire un grand ensemble. Donc, tout ça nécessite et doit stimuler l'imagination des architectes. Et j'en connais plein. Donc, faut pas non plus caricaturer à dire, bah voilà, il ne peut faire que des gratte-ciels. Non, non. Il y en a qui sont très, très judicieux. Et il y en a énormément, aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique, etc., qui reviennent avec des matériaux dits locaux en les modernisant, en les rendant beaucoup plus fiables, beaucoup plus solides, beaucoup plus durable, entre guillemets, et tout ça est excellent. Alors maintenant, pour faire une ville écologique, il faut surtout pas faire d'éco-quartier, parce qu'un éco-quartier, c'est une illusion, d'une certaine façon. C'est sympathique comme ça, mais c'est une illusion parce que c'est ce que j'appelle le syndrome Tchernobyl. On croit que les pollutions vont contourner gentiment l'éco-quartier, qui restera vertueux. Pas du tout. Il faut, et ça c'est l'ensemble de la société, à la campagne comme dans les villes, qui doit modifier ses modes de déplacement, ses modes de consommation, à la fois du sol, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de l'organisation de la cité.
Mais alors, est-ce que pour organiser ces villes, l'urbanisme, c'est l'allié de l'écologie ou alors son adversaire ?
Non, non, c'est son adversaire. L'urbanisme est un mot toxique. L'urbanisme est la manière occidentale et productiviste de fabriquer la ville. Maintenant, il faut être dans ce que j'appelle un ménagement environnemental. Le ménagement vient du verbe ménager, c'est-à-dire prendre soin. Et donc, il faut qu'on prenne soin des gens, des lieux et des choses. Et ça, c'est une autre manière de penser le déploiement urbain.
Alors, comment prend-on soin des gens, justement ?
On prend soin des gens, d'abord, en évitant de les entasser dans des logements indignes de ça. Ensuite, dans les entasser dans des transports en commun, comme des sardines dans une boîte. Bon. Et donc, ça veut dire jouer sur les temporalités. Moi, je crois beaucoup en la vertu de la maison des temps, qui pour moi est le lieu central de toute forme d'urbanisation aujourd'hui. On organise l'harmonisation des temporalités entre les plus gros employeurs, les transporteurs et les individus. Donc ça veut dire là aussi avoir une beaucoup plus grande souplesse dans l'offre des moyens de transport. Et puis, évidemment, le point le plus important, c'est de faciliter la proximité entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Et évidemment, quand il y a des centres-villes qui sont de plus en plus gentrifiés, une grande partie de la population qui y travaille est contrainte d'habiter très loin.
Dans votre livre, vous parlez de biorégion. Qu'est-ce que c'est que les biorégions ?
Alors, une biorégion, enfin, je ne vais pas faire l'historique de cette notion, mais qui naît quand même sous la plume de Patrick Geddes, qui est l'inventeur des études urbaines. C'est un Écossais qui est né en 1854 et qui meurt en 1932, et qui a une œuvre qu'on est en train de découvrir, heureusement maintenant. Et il avait compris une chose, c'est qu'une ville n'existe pas toute seule. Donc, une ville n'existe pas toute seule. Il a inventé la notion de conurbation, pour montrer qu'une ville est plus grande que sa délimitation administrative. Elle concerne tout ce qu'il y a autour, et tout ce qu'il y a autour, ça fait une région. Et cette région, lui, comme il est biologiste et botaniste, il met en avant ce qui est ses qualités organiques, c'est-à-dire la biorégion. La biorégion, c'est une région qui est capable de produire non pas l'intégralité de ce que les habitants de cette région vont manger, mais une grande partie, et surtout avoir la préoccupation permanente des équilibres écosystémiques. Donc c'est là aussi à la capacité de la diversité culturelle de la ville, lui associer la diversité biologique de la nature environnement.
Cela veut dire que cet environnement est stable. Et ça veut dire, par exemple, que les entreprises qui y travaillent sont stables, elles aussi. Or, mais on a vu tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, que souvent, ce sont des plateaux techniques qui les intéressent, ces entreprises.
Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une véritable révolution culturelle. C'est dans la tête que ça se passe. Il faut effectivement changer notre rapport au travail, notre rapport au loisir, notre rapport à autrui, pour essayer, justement, de construire cette espèce de biorégion. Et on est mal barré parce que, pour le cas français que je connais mieux, on est passé de 24 régions à 13 régions sans aucun débat public, sans aucune justification, même technocratique, alors que, en fait, je pense qu'on aurait dû plutôt redélimiter une quarantaine de régions, supprimer les départements et faire une quarantaine de régions. C'est pareil pour l'Afrique, c'est pareil pour l'Amérique latine, et pour éviter bien souvent l'aspect bicéphale des mégalopoles. Vous avez toujours la capitale administrative et la capitale économique. Vous avez Rabat, vous avez Casablanca, vous avez... Bon, et vous avez des villes comme Dakar, où il y a plus d'un tiers de la population du pays qui s'y trouve. Donc ces déséquilibres-là vont à l'encontre de la biorégion.
Alors, est-ce qu'on peut lutter contre ces dérives, si on peut parler de dérives en la matière, grâce à la démocratie? Vous consacrez à la démocratie, notamment locale, une importance fondamentale, finalement.
Oui, ben parce que je pense qu'on ne peut rien faire qui aille dans le sens de la satisfaction des habitants sans les habitants. Donc, il faut que les habitants soient partie prenante de leur propre destin. Et pour ça, il faut modifier les modalités du jeu politique. En 1996, à Habitat 2, à Istanbul, un personnage nouveau est arrivé dans le paysage politique, c'était l'élu, le maire. Les maires n'étaient pas là à Vancouver en 76, et là, ils étaient là massivement. Et on a découvert que beaucoup de grandes villes du monde avaient des maires nommés par le gouvernement en place, avaient des maires qui étaient des administrateurs, ou des préfets, des choses comme ça. Et maintenant, évidemment, on passe par les élections, et ça, c'est un très bon point, j'allais dire.
C'est quelque chose qui n'existait pas. Enfin, la démocratie locale, c'est une invention récente, en quelque sorte.
Alors, la démocratie locale au sens de l'appareil politique, c'est récent. Au sens de pratique qui n'avait pas cette appellation, c'est très ancien parce que on trouve dans de très nombreux exemples de communautés rurales des pratiques qui ressemblent à de la démocratie directe et locale.
Et en quoi la pratique de cette démocratie locale avantage finalement le développement des villes et des villages?
Ben parce qu'on part des connaissances et savoir-faire des gens et de leurs attentes localement, et donc avec leurs propres moyens, et non pas quelque chose qui vient d'ailleurs, d'en haut, et qui s'imposerait à l'ensemble d'un territoire. Alors évidemment, ça pose un vrai problème, c'est que, du coup, on est obligé de reconnaître l'inégalité des territoires. C'est pour ça qu'il faut inventer une solidarité entre les territoires, et non pas une égalité. Il faut admettre les inégalités territoriales. Certains ont des terres de meilleure qualité pour la production agricole, sont très riches en eau, etc. Et donc, c'est modifier les règles d'inter-relation entre ces territoires. Et ça passe par les habitants. Et on le voit bien, dès qu'on mise sur les gens pour reconfigurer leur habitat, pour réorganiser leur activité, bah ça marche.
Pourtant, vous dites également que la démocratie citadine serait menacée par la multi-appartenance des citoyens à différents clubs ou cercles ou aux objectifs qui sont parfois contradictoires.
Oui, parce qu'on a eu cette force incroyable dans le capitalisme solide puis liquide de nous diviser tous. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous comme moi, on est usagers. Alors, il faut savoir pour quel usage on a inventé ce terme à la fin du 19e siècle. Bon, on est usagers, on est acteurs, on est parents d'élèves, on est citoyens, on est citadins. On est membre de tel club de foot, on est dans tel syndicat. Non, il faut qu'on puisse chacun reconstituer notre unité. Et cette unité existentielle fait de nous, effectivement, partie prenante de nos projets. Et le mot projet, il ne faut pas l'oublier, c'est un terme très fréquent sous la plume de Sartre. La démarche existentialiste passe par le projet, c'est-à-dire se mettre au-devant de soi. Qu'est-ce que j'attends de moi dans le devenir? Et ça, c'est décisif, évidemment.
Et aujourd'hui, la plupart des villes n'ont pas de projet commun? C'est ce que vous sous-entendez?
Non. Et on a des projets à court terme. Parce qu'on est encore dans cette espèce de course au mandat. Un élu pense déjà, à mi-mandat, pense déjà à comment poursuivre son activité sur place. C'est très rare qu'un maire dise « Ben là, j'ai fait un mandat, je m'arrête, je passe la main parce que j'ai 60 ans ou 65 ans. » Non, on reste au maximum. Et donc, ça crée une sorte de clientélisme, volontaire ou non, qui est facteur de blocage. Et ça crée une culture politique qui n'est pas bonne. Donc peut-être qu'il faut expérimenter beaucoup plus qu'on ne le fait, en ayant le droit à l'erreur, et reconnaître que c'était pas bon. Le tirage au sort ici, des élus pour une année, Le maire de Genève est un maire tournant. Il est maire pour une année. C'est pas une ville qui connaît une grande déstabilisation. Donc c'est tout à fait jouable. Mais après, évidemment, ça veut dire que les règles de la politique s'adaptent à des territorialités différentes. C'est ça le point essentiel. Il est absurde que, par exemple, moi, je vote dans ma ville de banlieue. C'est ce que j'appelle la démocratie du sommeil. C'est là où je dors, mais je vote pas pour le maire de Paris. Je réclame de pouvoir voter au moins pour 2 ou 3 maires. Parce que, après tout, pourquoi, en tant que citoyen européen, je pourrais voter pour mon maire de banlieue, pour le maire de Paris, parce que j'y vais tous les jours, pratiquement, et pour le maire, je dis n'importe quoi, pas tout à fait, de Venise, parce que j'aime bien cette ville, et puis que son destin me préoccupe, parce qu'il y a beaucoup trop de touristes, et donc je voudrais élire le maire de Venise. Ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas élire 3 maires, je peux en élire qu'un.
De même que un citoyen qui n'est pas français, par exemple, pour reprendre cet exemple de la France, ne peut pas voter dans sa ville s'il n'a pas la citoyenneté
voilà, ou être européen, pays. C'est ça, exactement. Oui, bien ça, c'est absurde, évidemment. Et puis alors là, on pourrait aussi imaginer pour les villes, y compris et surtout les villes du Sud, parce que je pense que ce serait une initiation à la citoyenneté qui sera remarquable, de mettre le droit de vote à 12 ans, par exemple.
12 ans, c'est un peu tôt quand même.
Non, 12 ans, c'est bien. Oui.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est le moment où d'abord, où physiquement, anatomiquement, l'enfant a son plein développement de son système optique. Enfin, ça, donc c'est un moment très important. C'est la période pubère. Bon, on entre dans l'adolescence à ce moment-là, et donc c'est un moment où on est en opposition avec les adultes. Donc tout ça est très très riche de possibilités de transgression et donc d'inventivité. Et du coup, au lieu d'être dans un refus de dialogue avec l'adolescent, on dit voilà qu'il vit, sa crise. Pas du tout. Cette crise vient nourrir précisément le conformisme des adultes. Et donc, ce sera une capacité de renouveler.
Mais il existe d'ailleurs des conseils municipaux des jeunes dans beaucoup
Alors, absolument.
De communes.
Alors, bon, ça, il faut les développer considérablement. Il y en a à peu près 850-900 pour la France, sur 36 000 communes, donc c'est quand même pas beaucoup. Hein. Et beaucoup de ces conseils n'ont pas de réelle politique budgétaire, par exemple, hein, ou concrète. Donc ça reste un peu comme ça pour donner un avis.
Et le Parlement européen organise chaque année, ce sera au mois d'avril, un grand concours en Europe, dans les 28, dans les 27 plus 1, donc maintenant, pour que des jeunes lycéens aillent au Parlement et pendant une journée soit un député européen.
Ouais, c'est très bien ça, mais il faut développer ça.
Alors, dans le contexte dont on parle de démocratie locale, vous vous interrogez sur la place particulière de l'islam dans la ville. Pourquoi ?
De l'islam, enfin, je m'interroge sur toutes les religions, évidemment, parce que elles sont présentes considérablement et présentes aussi dans l'organisation du territoire. Et l'islam est une religion totale. C'est-à-dire que c'est une religion qui se préoccupe aussi bien de l'héritage, de la répartition des biens entre l'homme et la femme, etc. C'est une religion qui a un avis à donner sur la santé, sur l'hygiène quotidienne, etc. Donc c'est une religion totale et qui, du coup, va aussi intervenir dans l'organisation de l'espace public, dans l'organisation du marché, du souk, etc. Et donc, je ne peux pas la laisser de côté. Parce que ce serait une religion de l'intimité, une religion d'une foi personnelle, individuelle, qui n'aurait pas de répercussions sur la dimension collective, je m'en occuperais pas trop. Enfin, je serais curieux, évidemment, comme tout intellectuel, de savoir des choses là-dessus, mais ça me gênerait pas. Là, ce qui m'oblige à m'intéresser très précisément à l'islam, c'est que il y a des croyants qui rêvent d'une société islamique, c'est-à-dire d'une ville islamique aussi. Et je pense qu'une ville ne peut pas être une ville catholique, islamique, juive ou je sais pas quoi. Une ville, encore une fois, elle est composite. Et donc, il faut qu'il y ait cette diversité. Et cette diversité et cette composition changeante, elle s'exprime dans les rues. Et il faut pour ça que les espaces publics soient accessibles à tout le monde, par exemple.
Alors, donc, ça renvoie à l'islam, à la sphère privée, en quelque sorte.
Ça renvoie toutes les religions, mais bon, moi je suis pas croyant, donc forcément pour moi c'est une chose qui va de soi, de penser que la religion est une affaire privée, que les gens croient en ce qu'ils veulent, ça me gêne absolument pas, mais qu'ils ne m'imposent pas les éléments de leur croyance dans mes parcours quotidiens, dans ma vie quotidienne, dans ma rythmique de ma propre semaine, etc., etc.
Thierry Pacaud, nous avons parlé de beaucoup de choses au cours de cette émission, mais parlons de la ville intelligente, un mot de la ville intelligente, c'est... Qu'est-ce que c'est précisément ? Parce que c'est un terme qui est très très à la mode aujourd'hui et on incite en fait les maires à tendre vers cette ville intelligente. Alors en quoi est-elle ?
Alors moi ma définition, une ville intelligente est intelligente de l'intelligence de ses habitants. pour autant qu'on la stimule, cette intelligence collective et individuelle. Donc la ville intelligente, c'est un gadget. Je ne crois pas du tout en la smart city. J'observe évidemment, et là je ne peux pas dire le contraire, que ce qu'on appelle le big data pénètre tous les interstices de la vie quotidienne des gens, à parfois avec des éléments commodes, ne serait-ce que pour éviter d'attendre 3 heures un bus, on est tout de suite au courant de son passage, etc. etc. Donc il y ait une mutualisation des données, me semble bien, mais jamais on a mesuré le bonheur avec un chiffre, et jamais on rendra une ville intelligente uniquement par le partage des données. L'intelligence, encore une fois, naît, je pense, de cette espèce de relation très particulière d'amour entre une population et son site.
La ville intelligente, on imagine souvent Big Brother derrière, c'est un risque de ce dérive.
C'est un risque total, évidemment, c'est même déjà, j'allais dire, en œuvre. On ne s'en rend pas compte, mais en tant que piéton, on est, paraît-il, 300 fois par jour filmé à Londres par les caméras de vidéosurveillance. Ensuite, par les cartes bancaires, et puis par les navigos, et puis par le cellulaire, vous êtes suivi à la trace, vous êtes géolocalisé, et sans cesse, on peut intervenir sur les messages que vous avez vous-même envoyés ici ou là ou reçus par des algorithmes afin de savoir quel était votre profil de consommateur. Et on vous adresse à ce moment-là toute une flopée de publicités. Donc, on est déjà dans ce contexte-là. C'est pour ça que d'ores et déjà, il y a des gens qui disent il faut une journée sans Internet, il faut des cafés ou des lieux publics où on n'est pas du tout branché. Et donc, cette espèce de capacité à rester soi-même me semble essentielle, y compris dans le contexte de la ville. Et donc, pucer les trottoirs afin que je puisse, en me promenant, savoir à quel moment ce bâtiment a été construit, tout ça, moi, je pense que c'est superflu. Ça m'intéresse absolument pas. Je veux me perdre dans la ville, je veux flâner. Je veux surtout pas apprendre, je suis pas à l'école.
Flâner, par exemple, dans une Global City?
Alors c'est difficile parce que là vous me prenez l'exemple des villes à plus de 100 à l'heure. Non, une ville de flânerie, c'est une ville et précisément où la marche fait encore sens. Donc c'est pas Dubaï. Jan Gehl, qui est un urbaniste architecte remarquable danois, explique que il y a des villes à 5 à l'heure, c'est Venise, il y a des villes à 100 à l'heure, c'est Dubaï. Puis je précise que Dubaï, puisqu'on avait parlé des gratte-ciels tout à l'heure, le sable des pays du Golfe est impropre à la fabrication du béton. Et donc le sable qui sert à faire les gratte-ciels de Dubaï vient d'Australie.
C'est la mondialisation.
Alors c'est la mondialisation, donc c'est aussi à mon avis un peu absurde.
Est-ce que une solution de développement, pas la solution, mais une solution de développement et même de conception, ce ne serait pas la cité-jardin d'Ebenezer Howard, qui était un urbaniste autodidacte du début du XXe siècle,
hein? Moi j'aime beaucoup les cités-jardins. Je trouve...
Rappelez-nous ce que c'est précisément.
Oui, donc il a inventé ça en 1898, il en a réussi en créer deux, c'est un système coopératif, c'est ça qui est très important, et ça rejoint votre première question, c'est que le sol appartient à une coopérative, c'est-à-dire qu'il n'est plus un objet de spéculation. L'individu possède la maison qui est sur le sol est commun, la maison est personnelle, je peux la vendre à quelqu'un d'autre, mais je vends ma maison, je ne vends pas la propriété du terrain. Et dans la cité-jardin, alors il imaginait à peu près entre 30 000 à 35 000 habitants, dont au moins 2 000 à 4 000 agriculteurs. Parce que on avait une couronne verte venait finalement aérer la ville, une ville où il y avait que des maisons individuelles, mais aussi des petits collectifs, et puis partout des commerces, etc. Donc c'était une sorte de cité. Alors elle était jardin parce qu'elle était éparpillée dans une nature, et ça c'est plutôt très agréable évidemment.
Et c'est un chapelet de telles cités-jardins qui pourrait être un mode de développement intéressant.
Moi je rêverais de ça effectivement. Je suis pas contre les grandes villes. J'aime beaucoup Paris, mais Paris, voilà, n'est pas une grande ville non plus. Quand on regarde à l'échelle planétaire, puisque votre émission est mondiale, l'Europe est assez exceptionnelle. Il y a que 3 mégalopoles, hein, c'est-à-dire il y a d'environ 6 millions, c'est Madrid, la troisième, Paris à peu près 11-12 millions, et Londres. Bon, tout le reste, c'est des grosses villes, Berlin, 3 millions, Rome, etc. Tandis que vous regardez l'Afrique, vous regardez l'Asie, vous regardez l'Amérique latine, immédiatement vous avez des mégalopoles de 10, 12, 15 millions d'habitants. Et c'est là où il nous faut être dans l'étude spécifique cas par cas.
Merci, c'est la fin de cette émission consacrée donc à l'avenir des villes dans le monde, avec notre invité Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, auteur, je le rappelle, de Paysages l'année dernière, en 2016, et aussi d'une réédition augmentée de Terres urbaines. Merci à Nathalie Laporte qui a mis en onde cette émission. Le week-end prochain, vous retrouverez Chantal Leroux à ce micro. En attendant, bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.